Alors, je suis très heureuse d'entendre de parler de ce Moyen-Âge occidental commun, dont le centre se trouve désormais dans l'ère islamique à partir du VIIe siècle. Immédiatement, un cortège de questions me sont venues en tête. Évidemment, elles concernent toute la Chine. La première question, c'est que comment la Chine se porte à côté de cet empire médiéval? Alors, rappelons quelques chiffres. Au milieu du 8e siècle, la superficie de la Chine est d'environ plus de 10 millions de kilomètres. La capitale, Chang'an, a 2 millions d'habitants, soit deux fois plus que ceux de Bagdad et de Constantinople, 1 000 fois plus que ceux d'Aix-Chapelle. Elle est donc imposante, à la fois par la taille du territoire et par la densité géographique. C'est donc un poids lourd, un des poumons de l'économie du monde avec un marché intérieur immense. C'est également, on oublie assez souvent, une plateforme par laquelle les marchandises de l'océan Indien se sont transitées vers les steppes septentrionales et vers les autres régions de l'Asie orientale, le Japon et la Corée, en particulier entre le Xe et XIVe siècle. Mais au lieu de se demander si la Chine a joué un rôle du balancier, ce qui implique la notion de rapport de force, du poids à subir, ne serait-il pas plus intéressant, enrichissant, de s'interroger en premier sur des faits historiques qui nous emmènent les uns les autres, aller vers les autres, c'est-à-dire la relation de la Chine aux autres. Alors, en tout cas, c'est mon point de départ en tant que partisante de l'archéologie des échanges, spécialiste de la céramique chinoise, qui est considérée par l'historien Robert Vanney la première marchandise globale. Alors, il me vient en tête trois ensembles de questions. Dans le premier ensemble, il me semble que d'abord, effectivement, du côté de la Chine, nous avons eu aussi des expériences individuelles, des aventuriers, des explorateurs, des pèlerins, depuis le 9e siècle jusqu'au 15e siècle, qui racontaient des histoires, leur voyage jusqu'en Afrique de l'Est. Alors, ces voyages, ces récits sont aujourd'hui en général considérés comme des sources indirectes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas toujours d'accord que ces Chinois ont été vraiment allés par exemple, au début du 9e siècle, en Afrique orientale. À côté de ces expériences individuelles, il y a d'autres ensembles de faits historiques, donc des ponctuels. Ce sont des faits historiques ponctuels, et comme les expériences individuelles. Et il y a des expériences collectives, donc je pense à l'expansion militaire des Mongols. Et cet universalisme mongol, son traumatisme, son efficacité, on peut en discuter, pour la remise en fonctionnement de la route de la soie, permettant d'acheminer des étoffes de soierie et des porcelaines jusqu'en Byzance au XIIIe, XIVe siècle. Je pense évidemment à l'expédition Zheng He. D'après du point de vue de la Chine, c'est une mondialisation pacifique. Disons, en tout cas, c'est une sorte d'utopie d'empire maritime qui semble laisser le souvenir dans la mémoire des Indiens de la cour de Kerala comme dans celle de Sultanat d'Ormuz. Alors, je donne un seul exemple au lieu de deux, c'est-à-dire dans les accords signés en 1541, entre le roi portugal et l'État entre le roi du Portugal et le royaume d'Ormuz, il est stipulé que le sultan d'Ormuz verserait donc Le roi Portugal était égal en termes d'État au roi de la Chine. Voilà. Et comme vous le savez, que Zheng He s'était rendu deux fois, l'expédition de Zheng He aurait passé deux fois à Hormuz. Alors, à côté de ces faits historiques ponctuels, je voudrais surtout insister sur plutôt des, que j'appelle, des événements, des échanges, des événements plus réguliers, c'est-à-dire des échanges commerciaux réguliers. Donc, pour ce qui concerne le commerce extérieur de la Chine, on sait que c'est le système dit système tributaire qui domine. Donc, c'est un système qui est mis en place, vraiment mis en place au XIe, XIIe siècle. Donc, il a pour ultime but d'assurer la souveraineté de la Chine dans les échanges extérieurs. Or, à la lumière de lecture des monographies locales, aujourd'hui, il est admis que ce commerce tributaire est un commerce essentiellement privé, régulé, toléré par l'État. J'en reviendrai tout à l'heure avec un exemple très précis. En plus, les réglementations et leur rigueur varient au gré des contextes régionaux, interrégionaux, voire globaux. Donc, en fait, il s'agit d'une sorte d'équilibre fragile et constamment réajusté entre l'administration chinoise et le réseau marchand privé. Alors, le grand souci pour aborder cette histoire du commerce extérieur de la Chine, c'est que jusqu'à maintenant, nous avons essentiellement des sources d'administration centrale qui en dit peu, qui révèle peu la réalité des échanges. Si le temps le permet, je reviendrai tout à l'heure sur l'exemple de l'interdiction du commerce maritime que Julien a évoqué tout à l'heure. Alors, pour compléter ces lacunes ou le silence des textes administratifs, donc je voulais proposer, donc ici, plutôt que j'appellerais donc les routes, non pas les traces, les routes que les vestiges archéologiques nous ont laissées. Donc je pense, avec lesquelles nous pouvons constituer. Donc je pense aux monnaies chinoises, islamiques, je pense à la verrerie islamique indo-pacifique, à la céramique chinoise, sud-est asiatique, islamique et africaine. Alors, je dis quelques mots en plus sur la porcelaine céramique chinoise que je connais mieux. Par le caractère pérenne, les grès et les porcelaines chinoises, ou aussi leur imitation sud-est asiatique, subsistent de nos jours en quantité considérable sur de nombreux sites archéologiques. Je vous donne quelques chiffres. Alors, la céramique chinoise aurait arrivé en Afrique de l'Est par un commerce régulier au plus tard dès le début du 9e siècle. On trouve aussi, alors dans ce cas-là, plutôt des présences parcellaires, un ou deux fragments, à Palerme en Italie dès le 9e, 10e siècle, en Espagne dès le 11e siècle. Mais à côté, l'archéologie sous-marine nous montre un commerce à très grande quantité. L'épave Bellington, échouée vers 920. Aujourd'hui, la cargaison sortie de l'eau comprend plus de 67 000 céramiques chinoises. Les archéologues ont estimé que cela ne représente seulement 0,2% de l'ensemble de la cargaison. L'épave de Sirpon, milieu 10e siècle, il y a plus de 49 000 céramiques chinoises sorties de l'eau. L'épave Hainan, milieu du XIIIe, Nanhai Yihao, pardon, milieu du XIIIe siècle, plus de 80 000 pièces. Pour l'expédition de Zheng He, une seule expédition, la cour a commandé à Qin Dezhen plus de 443 500 000 pièces. En se basant sur ce chiffre, les sept expéditions auraient donc amené avec elles plus de 3 millions de pièces pour une période d'environ 20 ans. Le site de Kota Sina en Asie du Sud-Est, en Indonésie, un site du 11e, 14e siècle, pour seulement 4 campagnes de fouilles, plus de 52 000 fragments de dessins céramiques chinoises exhumés. Disons donc que la Chine inonde le monde Moyen-Âge avec ses céramiques. Mais il est important de rappeler que le début du commerce régulier de la céramique chinoise ne vient pas des Chinois. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Chinois qui commercialisaient la céramique chinoise parce qu'il est de qualité exceptionnelle, tout simplement plus tard pour échanger des produits de très haute valeur commerciale qui est très prisé en Chine et en Asie orientale. Donc je termine ici en dernier point. Donc je suis d'accord avec Patrick lorsqu'il parlait des traces, lorsqu'il parlait de... C'est-à-dire qu'on a souvent, lorsqu'il y a une présence d'un des sons céramiques, alors on pense au commerce, ce qu'il faudrait faire pour que ces quantités de vestiges puissent nous apprendre le réseau du commerce. Il faut un travail, des études et des analyses quantitatives conduites avec des méthodes et rigueur. Dans ce cadre, ces vestiges peuvent nous fournir nombreuses informations comme un indicateur de l'ampleur des échanges ou encore comme un instrument de mesure pour évaluer le degré d'implication d'un site ou d'une région dans le commerce à longue distance. Par ailleurs, il me semble qu'ici, nous avons un alternatif invariable, une grille d'évaluation universelle des échanges face à la difficulté de mise en commun, sans parler de la confrontation des sources écrites issues de contextes sociaux, administratifs différents, de terrains textuels différents, de packages intellectuels des auteurs différents et aussi d'intérêts économiques et politiques différents. Voilà ce que je voudrais proposer ici à mes collègues historiens.